Vous écoutez
RMC.
Excellente journée sur RMC. Il est 7h30.
RMC 7-9, Anaïs Matin.
Toute l'info en direct avec Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Martin, bonjour à toutes et à tous. Reprise de l'incendie dans le Var, 1000 hectares parcourus depuis hier après-midi. En Gironde, la situation se stabilise, mais les pompiers sont particulièrement éprouvés après presque deux semaines de lutte contre les flammes. Enfin, la situation dans l'enclave espagnole de Ceuta inquiète plusieurs pays européens.
Dans le Var, Grégoire, le feu ne progresse plus vite qu'un cheval au galop.
Ah oui, ce sont les mots du préfet Simon Babre qui précise que la surface parcourue et la destruction de la forêt sont absolument dantesques. La reprise de ce feu a entraîné l'évacuation de plus de 2500 personnes, comme dans la commune Duval. Son maire, Jérémy Giuliano, était l'invité de RMC ce matin.
C'est très très impressionnant. Ça fait 10 jours en fait qu'on a accueilli les communes environnantes et là, le feu est arrivé en lisière de notre commune. Donc ça a été à notre tour de gérer cette situation. Et là, c'est la mise en place donc du combat qui a commencé déjà pendant la nuit et là avec la stratégie qui évolue avec le jour qui arrive aussi, donc on voit différemment, on travaille différemment, les températures vont augmenter, la journée va être rude. C'est plus de 250 pompiers qui sont sur une ligne de front pour éviter que le feu passe un verrou et donc on utilise toutes les clés qui sont à notre disposition pour verrouiller ce verrou.
Cette reprise de feu dans le Var, évidemment on en parle ce matin sur RMC, on la surveille avec vous au 32-16 et sur WhatsApp 06-12-424-424 autour de Montfort-sur-Argent, Corinth, Leval donc également. Appelez-nous si vous faites partie des personnes qui ont dû évacuer hier, si vous habitez dans le secteur, même dans les communes alentours, venez nous raconter un peu comment ça se passe, ce que vous voyez, comment vous le vivez également. J'imagine qu'il y a un peu de crainte avec cette reprise de feu alors que le feu était déclaré fixé depuis 4 jours. Vous nous appelez évidemment ce matin 32-16 et sur le WhatsApp 06-12-424-424.
Et en Gironde, la situation elle semble se stabiliser. Sur les 220 000 personnes évacuées, 198 000 ont pu regagner leur domicile après près d'une semaine de lutte acharnée des pompiers contre les flammes, des pompiers qui sont près de 3300 à être mobilisés en ce moment sur le front des incendies. 267 d'entre eux ont été blessés alors qu'ils luttaient contre les flammes. Marion Gauthier a rencontré ces pompiers, ces soldats du feu, professionnels et volontaires, et leurs familles qui sont particulièrement éprouvées cette semaine.
Il veut parler des flammes qui encerclaient son village, de ses enfants qui y étaient mobilisés. David a refusé d'évacuer.
Quand on me dit qu'il va falloir partir à un moment donné, quand ça brûle ici, il faut que tu t'en ailles. Non, hein. Ma maison, si elle brûle, elle brûlera. Mais moi, je ne laisse pas mes enfants. Je ne peux pas partir en disant je vais me mettre à l'abri, je laisse mes enfants dans le feu. Même s'ils sont pompiers, je ne pouvais pas.
Rester, prendre un tuyau d'arrosage pendant que les camions rouges s'enfoncent dans les pinèdes.
Je sais qu'ils ont fait le maximum. Tous les pompiers du Porsche, de la Canon, ils ont été courageux.
Vous avez de la fierté pour eux?
Ah oui, j'ai fait deux beaux enfants et deux beaux pompiers.
Ses yeux sont humides, ceux de Blandine aussi. Son mari est pompier. La mort récente de deux collègues et amis ont décuplé l'inquiétude de leur fille.
Elle a eu très peur parce qu'elle m'envoyait des messages en me disant qu'elle voulait pas que son papa meure.
Son menton tremble.
Donc oui.
Vous aussi, vous avez eu peur?
Ah oui, même si j'essaye de pas y penser. Dans la nuit, il m'a appelé en me disant « T'inquiète pas, tout va bien ». Et il a raccroché. Et là, je me suis dit « Il a dû se passer quelque chose ». Je n'ai jamais ce genre de coup de téléphone. Cette semaine a été particulièrement différente puisque c'est notre commune qui a été touchée. Je l'ai senti un peu impuissant.
Ce soir-là, son mari doit rentrer après des jours à seulement se croiser.
Marion Gauthier pour RMC.
7h34 sur RMC, l'intégrité de l'espace Schengen reste absolument garantie.
Et c'est ce qu'assure l'Espagne après l'arrivée de près de 60 000 personnes à Ceuta, cette enclave espagnole située au nord du Maroc. Des images impressionnantes qui ont poussé plusieurs responsables européens à vouloir suspendre l'espace Schengen avec l'Espagne comme l'Italie, tandis que la France, elle, renforce les contrôles aux frontières, Romain Cluzel.
En pratique, l'Italie va relancer des contrôles dans les ports et les aéroports, des contrôles ciblés pour le prochain mois seulement pour les ressortissants non européens arrivant d'Espagne. L'Espagne n'est donc pas exclue de l'espace Schengen. C'est d'ailleurs impossible juridiquement. Surtout, cette mesure ne semble pas répondre à la situation de Ceuta, parce que des règles spécifiques y sont déjà prévues. C'est une exception dans l'espace Schengen. Depuis cette enclave espagnole au nord du Maroc, toute personne non européenne doit présenter un passeport en règle ou un visa pour pouvoir rejoindre le continent européen vers l'Espagne ou ailleurs. Malgré tout, le ministre de l'Intérieur français déploie 334 policiers et gendarmes en renfort à la frontière avec l'Espagne. Un déploiement d'anticipation, reconnaît le préfet des Pyrénées-Orientales, puisque aucun flux de migrants vers le continent n'a été signalé.
Romain Cluzel du service politique de RMC.
Une journée très chargée sur les routes de France aujourd'hui.
Et oui, il faut s'attendre à un trafic particulièrement dense pour chasser-croiser, et notamment sur l'A7, le long de cette autoroute. D'ailleurs, des villages n'en peuvent plus. Des milliers de véhicules guidés par Waze passent par ces axes secondaires et tertiaires même pour éviter les bouchons sur l'autoroute des vacances. C'est notamment le cas à Les Tourettes, dans la Drôme, une petite commune de 1000 habitants où s'est rendu Vincent Chevalier.
Je viens de me garer dans le village. Effectivement, pas mal de monde déjà sur cette nationale 7. Je vois deux habitants.
Mon prénom, c'est Loïc.
Moi, c'est Kathleen.
On essaye de sortir tôt, d'aller faire les courses, de pas tomber dans le trafic. C'est embarrassant, quoi. On n'en peut plus, quoi.
On passait par les chemins de traverse avec les GPS, on peut plus. Tous les touristes passent par nos petites routes.
C'est un balai incessant de voitures sur cette nationale 7 et parfois même au cœur du village. De quoi générer des nuisances sonores, de la pollution aussi. Là, je suis à côté d'un bureau de tabac. Je vais aller voir quand même si les touristes ramènent un peu d'activité.
En général, on tourne à 400 clients au jour. Là, dans des journées comme ça, oui, c'est bien. Bien 200 clients de plus.
Là maintenant, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui connaît particulièrement bien le sujet.
Alors, Lionel Fargier, et je suis maire. Ça devient une zone de guerre sur nos petites routes qui ne sont pas du tout adaptées. Ça a un coût énorme en termes de réparation des voiries, de gestion des incivilités, puisque malheureusement, on ramasse des déchets. Après ces week-ends-là, c'est une catastrophe.
Les prochains jours s'annoncent donc compliqués pour les habitants. Et selon le maire, le village va vivre au rythme de ce trafic intense jusqu'à fin septembre, début octobre.
Un trafic intense et aussi des déchets nombreux le long des routes et des autoroutes également. Vous verrez tout à l'heure à 8h10, on sera avec Julie Lecomte, la déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes. Elle nous dira que sur la route des vacances, on oublie un petit peu tout et on se comporte parfois un petit peu comme des cochons et on jette un peu tout et n'importe quoi par la fenêtre. On dressera le bilan avec elle tout à l'heure, donc à 8h10.
L'information est tombée durant la nuit. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a renoncé au projet d'ouverture de l'association à des investisseurs privés. C'était un projet qui faisait craindre une marchandisation du football et le tout était accompagné de soupçons de conflits d'intérêts. Du foot toujours en France, depuis la nomination officielle de Zinedine Zidane à la tête des Bleus, les premiers billets mis en vente hier pour les matchs de l'équipe de France à domicile en Ligue des Nations s'arrachent. Thibaut, supporter des Bleus, a réussi à décrocher le Graal et verra Zizou en mandat entraîneur le 5 octobre contre la Belgique.
C'est un beau challenge de pouvoir voir au moins un des deux matchs. C'est vrai que si j'en avais eu aucun des deux, j'aurais été un peu déçu et content en tant que supporter de pouvoir voir le deuxième match de Zizou en France, quoi. Ça sera un rassemblement historique face à la Belgique. Donc, ça sera la deuxième grosse affiche. Même pour moi, c'est peut-être la plus grosse affiche parce qu'en termes de jeu, la Belgique est meilleure que l'Italie. Je suis content de pouvoir dire que j'ai participé en tant que supporter. Et je raconterai plus tard, à mes enfants, tout ça, que j'ai fait un des premiers matchs de Zizou à la tête de l'équipe de France.
Et oui, ça donne envie de voir Zizou à la tête de l'équipe de France. Venez nous dire, vous aussi, peut-être que vous avez réussi à obtenir, ou pas d'ailleurs, peut-être que vous avez galéré toute la journée d'hier en attendant d'obtenir vos places pour ce match entre la France et l'Italie début octobre, ou la France et la Belgique. Venez nous dire si vous avez réussi à avoir vos places. Merci beaucoup, Grégoire Morelli. Rendez-vous à 8h pour un prochain journal.